Europe 1. Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Bienvenue au cœur de l'histoire. Un rapide coup d'œil sur la vie des quelques 266 papes qui ont succédé à Saint-Pierre depuis 2000 ans montre qu'on trouve parmi eux tous les types d'hommes possibles. Du saint au criminel, de l'érudit à l'illettré, de l'ascète au débauché. Mais celui que je vous propose de découvrir dans ce nouvel épisode en deux parties détient sans conteste la palme de l'abomination. Il s'agit d'Octavien, fait pape au Xe siècle, sous le nom de Jean XII. Si l'on en croit les écrivains de la Révolution comme Maurice Le Châtre, tous sont d'ignobles tartuffes, criminels, dépravés, complices des monarques et de toutes les noblesses en vue de faire peser sur les peuples un joug temporel et intemporel. La lecture des hagiographes officiels de l'Église est aussi peu édifiante. Sous prétexte de subordonner le ministère de Saint-Pierre à la vocation de l'Église à la sainteté, elle se garde de décrire par le menu des actions qu'elle aurait tout bénéfice à dénoncer une fois pour toutes. Si la vérité historique, comme souvent lorsqu'elle touche à des sujets sensibles, se situe quelque part entre les deux extrêmes, il est important de souligner que la proportion de papes indignes reste modeste au regard du nombre de saints qui se sont rendus dignes de leur ministère. D'Étienne IV à Jules III, on trouve tout de même une vingtaine de papes simoniaques, sanguinaires, débauchés, sadiques ou même sorciers et adorateurs de Satan, comme l'effrayant Jean XII dont il sera question aujourd'hui et qui, après avoir fait crever les yeux de ses ennemis, organisait à Latran des orgies durant lesquelles on buvait à la santé du diable. Le sordide côtoie souvent le ridicule, surtout lorsqu'il touche au sacré. Boniface VIII enseignait que l'âme meurt avec le corps. Léon X, fils à papa qui avait fait peindre d'or un jeune garçon pour fêter son intronisation, déclarait ouvertement que ni avant d'être pape, ni après, il ne croyait à l'existence de Dieu. Mais pour beaucoup de ces affreux personnages, le crime se montre d'une atroce banalité. Bastonnade, arrachement de la langue et du nez, crevaison des yeux et plombage des oreilles rythment leur pontificat entre deux excommunications. Le paroxysme de l'abomination sera atteint par Alexandre VI, le fameux pape Borgia. Concours de sodomie, viols en série, assassinats seront comme la récapitulation d'un ensemble de pratiques qui entachent de manière indélébile une institution censée témoigner du beau, du vrai et du charitable. Mais pour l'ensemble, il reste que la vie moyenne d'un pape n'est pas très différente de la vie d'un homme ordinaire. Beaucoup d'auteurs chrétiens n'ont pas épargné leur Église, Dante en tête. Dans son enfer, on trouve bon nombre de clercs, prêtres, évêques et papes. Dante n'hésitera pas à placer le pape du premier jubilé, Boniface VIII, au 9e cercle des damnés. Il créera même une fosse spéciale pour les papes simoniaques. Et puisque nous parlons de la Divine Comédie, aussi palpitante dans sa partie consacrée à l'enfer qu'ennuyeuse dans celle qui décrit le paradis, il nous faut bien avouer que l'étendue des turpitudes qui agitent la vie humaine est plus amusante à raconter que le long fleuve tranquille de la béatitude. Les arts dont l'histoire elle-même s'accommode mal du bonheur des gens, la vie des papes n'échappe pas à l'exception. Il reste pourtant que de nombreuses figures papales honorent l'humanité. Exemple de courage et de beauté d'âme, ils ont laissé un souvenir dans la piété populaire, comme dans l'estime des historiens. Benoît XIV, ami des lettres, Clément XIV, ami des juifs, sont des visages d'exception qui viendront apporter la douce lumière de la sainteté au cours de notre voyage dans les petits secrets des papes infernaux. Et de Saint Grégoire le Grand au pape François, le trône de Saint-Pierre a été occupé par des figures d'une éclatante beauté qui incarne en plénitude le témoignage des évangiles. Dispensateurs de paix et d'espérance, ils sont les piliers qui, durant deux millénaires, ont tenu à eux seuls, avec l'aide de Dieu, l'édifice de la papauté. L'Église est pour beaucoup une institution qui incarne des principes d'immuabilité et de pérennité. Son histoire obéit pourtant à des lois de croissance qui sont aussi celles des peuples. Tant qu'ils furent investis de pouvoirs temporels, les papes dictèrent leur conduite aux rois chrétiens avec plus ou moins de bonheur. La Révolution française sonna le glas de cette mainmise de l'Église sur les affaires du monde. Revenue à sa vocation simplement spirituelle, elle eut une succession de papes remarquables, parmi lesquels Pie VII, Pie XI et Benoît XVI ont su guider le vaisseau de Saint-Pierre au milieu des pires tempêtes. Jean Leflon, brillant historien de l'Église, écrit de Pie VII
« Il sut dans le chaos être l'homme de la situation et l'homme tout court ».
Le pape qui nous intéresse est le dernier d'une liste sordide de souverains pontifes du Xe siècle dont la dépravation a tellement marqué les esprits du Moyen-Âge qu'on a donné à leur règne le nom de « pornocratie pontificale ». Serge III, Anastase III, Landon, Jean X, Léon VI, Étienne VII, Jean XI, Léon VII, Étienne VIII, Marin II, Agapé II et enfin Jean XII ont élevé le vice et la méchanceté à un degré qu'il est difficile de se représenter aujourd'hui, mais que la chronique médiévale, toujours empreinte de ce mélange étonnant de naïveté et de crudité, a su rapporter avec précision. Les historiens des XVIIIe et XIXe siècles se firent les relais horrifiés de cet épisode de l'histoire de l'Église que les Allemands appelèrent simplement « Römisches Hurenregiment », gouvernement romain des putains. Le jeune homme a élevé le calice en présence des fidèles. Il s'apprête à dire les paroles de consécration quand un écuyer s'approche de lui et lui chuchote vivement quelques mots à l'oreille. Dans l'assemblée, on ne s'étonne pas de voir l'office ainsi perturbé, on a déjà pris l'habitude des frasques du célébrant. Il n'y a que les pèlerins qui se sont étonnés de ce que la messe soit dite par un homme en armes. Ils n'ont sans doute pas cru ce qui leur affirmait que cet individu, à peine âgé de plus de 18 ans, est le pape en personne. Le souverain pontife a quitté l'office en courant, abandonnant le calice et les offrandes sur l'autel. Un clerc interpelle l'écuyer par qui l'incident est arrivé.
« Que se passe-t-il ? Rien, rien. Patientez seulement quelques minutes, la jument de sa sainteté vient de pouliner. »
Le pape qui célèbre la messe en armes tient à aller embrasser son poulain. Quelques instants plus tard, toute l'assemblée est renseignée. Elle n'est pas en reste. Chacun sait à Rome que le pape aime ses chevaux plus que ses ouailles. Il a pour eux toutes les délicatesses et choisit pour les nourrir les meilleures friandises. Pignons de pin, pistaches, noisettes, dattes, raisins secs, figues trempées dans les meilleurs vins sont au menu quotidiennement. L'écurie est le lieu qu'il aime entre tous. On l'y a vu ordonner un diacre. D'ailleurs, il ne pourrait remplir ce genre d'office au latran. L'édifice saint entre tous n'est pas seulement la demeure qu'il a choisie pour loger sa maîtresse. C'est aussi l'endroit où il se plaît à violer les jeunes romaines venues faire leur dévotion. L'immense nef retentit souvent de ce rire effrayant qu'on l'entend déployer les jours de fête. Lors des grandes cérémonies, il officie sans communier, puis se met à danser de façon obscène en présence de tous entre deux crises de fou rire. Il a acquis l'art de se débarrasser des témoins gênants. Beaucoup sont retrouvés morts quand ils n'ont pas les yeux crevés, le nez coupé, la langue ou le sexe arraché. Lorsqu'il n'est pas à la chasse ou en séance de viol, le pape joue au dé avec ses amis et trinque à la santé du diable. Malgré tout, à ses heures perdues, il ordonne des évêques. Moyennant finance, il marchande sans vergogne les dignités ecclésiastiques. Dans la ville de Todi, il a ordonné un évêque de 10 ans. D'aucuns se sont essayés à lui formuler des reproches. Parmi eux, son père spirituel. Jean XII, fatigué d'entendre ses lamentations, le fit émasculer et lui creva les yeux de ses propres mains. Aucune crainte qui n'ait conclu son crime par une velléité de prière, comme Macbeth après avoir tué son roi. Jamais on ne l'avait vu se recueillir, ni même faire le signe de croix.
Les 100 années qui séparent la chute des Carolingiens du couronnement du Capet forment une ère ayant un caractère spécial et que nous appelons Xe siècle. Ce siècle est semblable à une matinée d'automne nébuleuse succédant à une eau brillante. La nature est attristée par des vapeurs que le soleil dispersera vers l'heure de midi. Mais à travers ces vapeurs, le soleil est toujours visible. Il perd, il est vrai, l'éclat de ses rayons. Mais néanmoins, il reste visible. Et en fixant un point du firmament, on peut dire « il est là ». De même, dans la nuit du Xe siècle, nous continuons à distinguer, sinon le soleil, du moins la place qu'il occupe derrière les nuages qui peuvent bien le voiler à nos yeux, mais non le cacher entièrement.
C'est ainsi que s'exprime le comte d'Andolo dans son ouvrage « Rome et les papes » paru en 1868. Et à la suite du propos cité, de souligner que oui, la chute des Carolingiens a été la source d'un chaos sans précédent dans l'Empire, que oui, les empereurs depuis Charlemagne étaient investis de la mission de donner au peuple la justice, de combattre les perturbateurs de l'ordre et de protéger les prédicateurs de l'Évangile, que oui, l'empereur était de facto vicaire de Dieu dans l'ordre temporel, oui, ces accents romantiques ameutés pour voler au secours de l'abjection, ne laisse pas de surprendre à défaut d'indigner. Il est vrai que c'est loin, loin, le Xe siècle. Imaginons-nous que cet Octavien proclamé Jean XII se situait aussi loin dans le temps pour le siècle de Christophe Colomb ou de Gutenberg que ces derniers sont éloignés de nous. Et les années ont cette faculté magique d'estomper à nos yeux les crimes les plus ignobles. C'est ainsi qu'on peut raconter aux enfants l'égorgement de Polyxène par les Grecs avec force détail sur l'opération, sans crainte de les heurter, quand pour le même assassinat filmé et diffusé sur Internet, on active aussitôt le contrôle parental. Doit-on se résoudre à accepter que dans 10 siècles, les crimes pédophiles pratiqués ces dernières années par des milliers de prêtres sur des dizaines de milliers de petits innocents soient enseignés en souriant à des écoliers comme des épisodes d'une sorte de mythologie occidentale du XXe siècle ? S'il est une relativité dans les coutumes, s'il en est une dans les âges et dans les civilisations, le christianisme nous apprend qu'il n'y en a aucune dans le crime et que ceux dont la gravité est telle que les victimes crient vengeance au ciel ne doivent trouver aucun adoucissement sous la plume des écrivains chargés de les raconter. Voici un homme. Il vient de sortir d'une geôle sordide de Rome où Octavien le retient prisonnier. Il a pour seul tort de s'être opposé au tyran. Il sort libre, certes, mais auparavant, on lui a crevé les yeux, coupé le nez, arraché la langue, tranché une main. Allez maintenant lui expliquer qu'il n'a rien à craindre pour la chrétienté, que les temps qu'il vit sont pareils à une matinée d'automne nébuleuse, qu'il ne nourrisse aucune sorte d'inquiétude car le soleil est toujours là derrière les nuages. Et après ses propos sans aucun doute thérapeutiques, à défaut d'avoir été prophylactique, s'il est encore malheureux, dites-lui que la nature est aussi attristée par les vapeurs qui se sont abattues sur lui. Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, parlez-en autour de vous et faites-moi part de vos commentaires sur le groupe Facebook Au cœur de l'histoire. Je vous lirai, je vous répondrai. Ce podcast est une création Europe 1 Studio. L'épisode que vous venez d'entendre a été écrit en collaboration avec Jean-Louis Bachelet. La réalisation est signée Julien Tarot. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou la plateforme sur laquelle vous écoutez habituellement vos podcasts. Et si vous souhaitez aller plus loin, la bibliographie de cet épisode vous attend sur le site d'Europe 1. Je vous donne rendez-vous demain pour la seconde partie de ce récit au cœur de l'histoire consacré au terrible pape Jean XII.